Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditorices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Bienvenue dans cet épisode spécial de Kif Taras, un crossover avec Le Chip.
Et comme d'habitude, on parle toujours sans complexe de noirs, de blancs, de roms, d'arabes, d'asiatiques, de musulmans, de juifs. Et on va le faire en exclusivité pour une fois avec Le Chip.
Un petit bruit buccal, subtilement dosé, Le Chip est en danger.
Rendez-nous Le Chip.
Votre collègue vous accuse de ne pas lui avoir rendu le chargeur qu'elle vous avait prêté hier. Vous ne voyez pas de quoi elle parle, le ton monte. Et là, la lumière fut.
Ah, mais c'est pas à toi que je l'ai prêté, c'est à l'autre noir de l'open space.
Ceci est une histoire vraie, dédicace à la personne qui m'a raconté cette anecdote. Détendez-vous, vous écoutez Le Chip et Kif Taras. Oui, c'est un épisode crossover, un croisement entre nos deux podcasts. Je m'appelle François Oulac, je suis accompagné comme d'habitude de Mélanie Wanga.
Salut François.
De Kevin Dola.
Hello, hello.
De Rokaya Diallo.
Salut.
Et de Grace Lee.
Coucou.
Comment allez-vous?
Ben on va bien, et vous? Comment ça va le Chip?
Très bien, très bien. Je pense qu'on est tous très excités de faire cet épisode. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire et vous...
Bah nous aussi.
C'est trop cool.
C'est le Captain Planet du podcast sur
les Avengers. Le DC Universe. Est-ce que ce sera le Birds of Prey ou pas? On verra. Il paraît que dans Kif Taras, vous avez pour coutume de vous situer racialement, c'est ça? Vous voulez qu'on fasse un peu la même chose?
Exactement. Comme ça, on a un petit rituel où on demande aux personnes qu'on reçoit ou avec lesquelles on discute si elles se situent sur le plan racial et si oui, comment?
Si elle se situe déjà,
ouais,
c'est
par exemple. Alors par exemple, moi je suis une femme noire et Grace est asiatique.
Ouais, et là comme je suis en minorité, bon généralement je suis en minorité, mais là je suis en méga minorité parce qu'on est cinq autour de la table et moi je dis que je suis asiatique, mais comme je pense que vous allez être très précis, je vais dire que je suis sino-cambodgienne aussi parce que je veux pas être dans le flou quand vous êtes dans la
précision. Quoi. Ouais. Et toi, Kivi, t'es quoi?
Moi, je me définis comme...
Quelle origine?
Mais en vrai, je suis pas du bon côté de cet argument, parce que moi, la question « tu viens d'où » me pose pas tant de problèmes que ça. Bref, je suis un homme noir martiniquais.
Et toi, voilà. Mélanie?
Et du coup, tu peux dire pourquoi ça te dérange pas qu'on te demande d'où tu viens?
Ouais, parce que moi, j'ai une réponse relativement cohérente qui arrête les questions. Quand un blanc me demande « tu viens d'où ?» et que je réponds « Martinique », il faut pas « mais tu viens d'où vraiment ?»
Ah oui.
Alors que si j'étais né en Dordogne ou à Dunkerque, ça aurait été une autre histoire.
T'as pas ce problème-là.
Ouais.
Mélanie, qui es-tu? Alors toi, je suis sûr que tu dois avoir beaucoup cette question.
Ouais, moi j'ai beaucoup cette question et c'est marrant parce que ça a évolué avec le temps. J'en ai un peu parlé dans l'émission, mais selon où tu te trouves dans le monde, on n'attend pas nécessairement la même réponse. Quand je suis en Afrique, ben, on me dit tu viens d'où, t'es française, t'es blanche, quoi. Aux États-Unis, on me dit que je suis noire et en France, on me dit que je suis métisse. Donc je pense qu'au final, c'est très très subjectif. Et moi, personnellement, aujourd'hui, je me définis comme une femme noire tout en sachant que je suis une femme métisse parce que, en tout cas en France, j'ai l'impression que c'est aussi comme ça que socialement, je suis classifiée, si on peut dire, dans la minorité visible. Donc voilà.
Tu choisis d'engager cette partie-là de ton identité aujourd'hui, de te définir par elle.
Voilà.
De toute façon, la société va choisir pour toi si tu décides de...
Je peux pas dire que je suis une femme blanche, alors que pourtant je suis 50-50. Mais voilà, femme blanche, ouais. Dans la rue, non. Mais en vrai, non. Donc voilà.
Et je voudrais demander, Mélanie, est-ce que parmi les trois réponses que tu nous as... dites, est-ce qu'il y en a une qui te met mal à l'aise? Enfin, si on te dit t'es une femme métisse en France, est-ce que c'est quelque chose qui, enfin, pour toi c'est neutre ou est-ce que c'est positif ou négatif? Ou et pareil pour les deux autres questions, si aux États-Unis on te dit t'es une femme noire, est-ce que t'en retires un certain, enfin, je sais pas si c'est bien ou voilà.
Enfin... Ouais, mais je saurais pas vraiment dire. Après, ce qui aux États-Unis, ça a été dans un cadre, c'était une situation quand on m'a dit ça, c'était une situation où en gros on me disait pourquoi tu traînes avec des blancs, quoi. Alors que t'es noire.
C'était un reproche.
Ok.
Ils ont dit que j'étais noire. Merci beaucoup. C'est juste que j'ai retenu de cette phrase.
En Afrique, c'était plutôt la blanche, viens ici, la blanche, des filles comme toi, chez nous, elles font des piqûres, viens. Donc c'était pareil, malaisant. Et métisse, au final, je trouve que c'est plus neutre. Mais voilà, c'est toujours en recherche, c'est toujours.
Si t'étais en Martinique, tu serais une chabine, tu serais encore autre chose, quoi.
Ouais.
Tu serais. Ouais.
On a d'autres.
C'est ça. Et en Asie, pareil, t'es noir pour le coup.
Ah oui, oui.
Et du coup, ouais.
Ouais, moi je suis, si ça intéresse quelqu'un.
Mais qui es-tu?
Au fait, salut, j'ai vu la lumière. Non, moi c'est pas très intéressant, je suis martiniquais, guadeloupéen, et je me définis également comme noir. Si vous demandez à ma mère si je suis noir, elle dira « Ah non, mon fils n'est pas noir, mon fils est capre, c'est-à-dire un mélange de noir et indien, parce que vous savez, aux Antilles, on a plein de mélanges et plein de typologies et de phénotypes différents qui fait que, voilà, en gros, on a plein de mots pour dire qu'on n'est pas noir. on est autre chose. Voilà.
Mais c'est hyper capre, comme le capre que tu mets dans les pâtes.
Alors je ne sais pas si l'étymologie de capre dans ce sens-là est liée au condiment. Ça,
en
je
tout
sais
cas,
pas.
C'est très bon.
C'est délicieux et j'en mets sur ma pizza volontiers. Écoutez, Rokaya et Grace, je vais vous dire un truc. Je trouve qu'il y a trop de diversité en fait à Binge Audio.
Ouais.
Très, très sérieusement. Là, on est.
Ouais, ça nous met à l'aise, nous aussi.
Ben, franchement, là, on est 5 personnes racisées autour de la table et c'est déjà beaucoup. Et ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de faire une lutte pour savoir lequel des deux podcasts, race et pop culture, doit rester à Binge et qui aura le droit d'être le quota de cette plateforme.
Waouh.
Donc, on relève le défi.
C'est pas un épisode crossover, c'est un épisode de cheap.
C'est ça, c'est
contre
c'est
Battle Royale. Donc j'ai préparé des petites questions. Il y aura des questions de différents types, vous verrez, des questions sur l'actualité, des trucs qui sont passés ces derniers temps dont on a parlé, ou des trucs un petit peu moins récents parfois. On va parler de féminisme, de race, de genre, d'écologie un peu, de pop culture. Voilà, j'ai essayé de brasser large pour que ça parle à tout le monde. Alors du coup, on a eu un petit problème technique. On n'a plus de buzzer ni de clochette. Donc voilà, là je vous explique les équipes. Du coup,
j'ai d'un côté, à la bouche.
J'ai exactement. J'ai d'un côté de la table donc Kevin et Mélanie qui représentent la team le chip.
C'est ça. Ouais.
Et de l'autre côté de la table, il y a donc Rocker et Grasse qui sont la team KTR. alors du coup. Je vais poser les questions et puis la première personne qui a la réponse, comme on n'a pas de buzzer, je disais, ben vous allez dire ding avec une voix de clairon.
D'accord. On va répéter. Ding.
Voilà, c'est ça. Je vous donne le la. Ding.
Moi, je vais tester dinguer. Grâce, là je.
Je te laisse faire le ding qui t'inspire le plus.
Ouais. Ok.
Okaya.
Ok. On verra.
Et puis bon voilà, il y aura un point par question. J'ai quelques questions. On verra où ça s'arrête. Et puis si vous avez envie de rebondir, discuter, commenter sur les sujets. Ben, ça reste un podcast, hein. on n'est pas chez Nagui, donc n'hésitez pas, on est là pour ça quand même. Est-ce que vous êtes prêts?
Ouais.
Est-ce que vous êtes prêtes? Il y a 3 femmes qui jouent et un homme, donc on verra. Est-ce que vous êtes prêtes?
Nous sommes toutes prêtes.
Alors on va commencer par des questions classiques. Je vous pose une question et puis la personne qui a la bonne réponse, elle a un point. Quel joueur de foot a quitté le terrain lundi en début de semaine en plein match?
Ding,
de...
ding. Marega.
Alors
c'est
Kevin qui a eu
Marega, joueur du FC Porto lors d'un match contre Guimarães. Et c'est assez rare de voir des joueurs quitter le stade lorsqu'il y a des cris de singe. Ça fait longtemps qu'il y a des gens qui disent qu'il faudrait
que le match s'arrête,
etc. Et en fait, il a pété un câble, il est parti. Et sur le coup, ses coéquipiers, même son entraîneur, l'arbitre le soutiennent pas du tout. Ils disent non, mais tu restes. Mm. Et c'est le lendemain sur les réseaux sociaux, ils ont fait ah mais t'avais trop raison, t'as un bonhomme.
Il s'est pris un carton jaune,
ouais. Évidemment. Ouais. Ouais, et voilà, c'est un fléau.
Et en plus après il a pris la parole, non, pour dire.
Ouais, il a fait un post sur Insta en espagnol, ouais, pour dire.
En disant j'ai pris un carton, alors vous avez
fait. Et qu'ils aillent se faire foutre les gens qui l'ont fait. Mais du coup le carton jaune il reste. Parce que c'est ça aussi encore la question d'être puni. Parce qu'on a appris sa propre défense, quoi.
Parce
c'est,
que tu n'as pas souri alors qu'on te fait des trucs racistes.
T'es pas passé au-dessus. Ouais.
Mais il y avait eu déjà des discussions sur le fait d'arrêter les matchs pour les insultes homophobes. Et c'est pas du tout mis en place encore pour ce genre d'insultes-là quelque chose qui est dans l'air du temps.
Une des surprises, j'écoutais une émission hier, et une surprise, c'est que beaucoup de gens disaient « Mais ça arrive aussi au Portugal. On n'avait jamais eu de cas. » Non, mais c'est vrai que c'est des trucs, tu vois ça tout le temps en Italie, un petit peu en France, en Espagne, en Angleterre, mais au Portugal, il n'y avait pas eu de trucs aussi hardcore que ça. Et effectivement, l'UEFA et tout, ils sont assez désemparés, démunis, pas préparés.
Non, mais le fait que l'arbitre mette un carton, c'est quand même très chaud.
Ouais, c'est très chaud. Je sais pas s'il y a des discussions, parce qu'après, je sais pas si c'est comme en France où il y a des commissions disciplinaires qui statuent sur est-ce qu'il y a vraiment carton, est-ce qu'il y aura des. Enfin, là, c'est pas un carton rouge, donc il n'y aura pas de suspension, mais est-ce qu'on l'enlève ou pas, je sais pas.
Bah ouais, parce que là, c'est vraiment injuste, ouais.
Quelles seront les retombées, quoi. 1-0 pour le chip, je veux pas, je prends pas parti, hein. Moi,
l'arbitre tellement impartial, objectif, mais,
Allez, deuxième question. Quel humoriste gabonais est devenu célèbre sur les réseaux sociaux grâce à sa célèbre phrase tu vois les retombées?
Ah oui.
On dit Ding.
Ding.
Je t'écoute, Kevin.
J'ai vu la vidéo hier. J'ai vu plusieurs fois le truc. C'est Petit Mayombo.
Oui,
ah,
le Petit Mayombo.
Le Petit Mayombo,
vous avez vu ou pas? C'est un monsieur de toute petite taille.
C'est un petit qui a une voix un petit peu aiguë.
Et il a
fait une interview sur Combini.
Ouais, il a fait une Combini.
Il a fait une tournée des médias français là la semaine dernière.
Il a dit, moi, je choisis entre Kim Kardashian et Shakira. Et puis après, je sais plus ce qu'il dit.
En gros, c'est un humoriste gabonais de 26 ans, mais qui a eu un problème de croissance et hormonal qui fait qu'il est resté tout petit. Il a une voix et un physique enfantin. Et en gros, il est devenu célèbre sur les réseaux sociaux à cause de ses vidéos où à chaque fois il fait des espèces de tirades sur la philosophie de la vie et la société. D'accord. Et donc il y a cette phrase tu vois les retombées comme ça qui est devenue virale parce que c'est devenu un mème en gros dès qu'il se passe un truc, dès qu'une star française est dans la sauce tu vois les retombées.
D'accord.
Etc. Et il commence à perdre son enfant, donc je suis très content pour lui.
Je croyais que t'allais sortir le mec qui dit attends t'as par ci, attends t'as par là.
Ah, je connais pas ça, tu vois.
Ah, bon.
Je suis à moitié à la page.
Les vrais savent.
En tout cas, ça fait 2-0 pour le chip, je note. Lors de la dernière cérémonie des Oscars, quel film a remporté le prix du meilleur film?
Ding.
C'est Grâce qui était en première, ouais. Je t'écoute.
C'est Parasite de Bong Joon-ho.
Oui, bonne réponse.
Yeah. Qui a gagné aussi meilleur réalisateur, meilleur scénario.
Il y en a 4, ils ont raflé 4 Oscars. Ouais. Donc,
scénario réel et...
Meilleur
J'avais
film international.
J'avais vraiment peur que ce soit le Joker qui gagne, et quand ils ont gagné, j'étais là genre oui.
Vous l'avez vu, vous avez tous vu le film, vous avez kiffé?
C'est marrant parce que tous les gens à qui on l'a recommandé l'ont détesté.
Ah ouais,
mais
ouais.
Oui. Les parents et tout qui font...
Mais les vieux,
j'étais allé voir ce film, c'est nul.
Les parents de mon mec, ils ont... Mais après... Ils sont très. C'est vraiment la famille qui vit dans la super maison.
Ils sont identifiés à.
Voilà. Et donc ils ont dit non,
ils ont eu peur en fait. Ils ont eu peur. Moi j'ai mis pause tellement j'avais peur en fait en regardant le film.
T'as mis pause, genre tu l'as piraté.
Non, je l'ai vu dans l'avion en fait. Mais j'étais obligée de mettre pause, j'avais trop les boules. Ah non, mais c'était. Pour moi, ça fait. J'ai mis pause dans Get Out aussi, donc.
D'accord.
Tu vois, je suis un peu.
Sensible.
Ouais.
Est-ce que vous avez vu ce tweet de l'acteur John Cho, un acteur américain d'origine asiatique, qui a dit ah, c'est marrant, j'étais à côté du casting de Parasite pendant la cérémonie des Oscars et tout le monde m'a complimenté pour ma récompense, alors qu'il n'a pas du tout joué dans Parasite. Merci, la whiteness. 2-1. On continue. La chanteuse Erika Badu s'apprête à sortir un encens. Quelle est sa particularité?
Ding.
Oui, grâce. Rokaya, excuse-moi.
Pour
moi, vous êtes la team KTR.
Il est parfumé à l'odeur de son vagin.
Oui. Mais Annie, je croyais que t'allais trouver.
Non, mais j'ai trouvé, mais elle a dit ding avant moi, Rokaya. Donc Rokaya, je me tiens au courant. Alors, de ce genre d'informations.
Je suis pas au courant.
Mais
c'est le
titre
de l'album.
Non,
un parfum à l'odeur de son vagin.
Elle sort un parfum, tu vois.
Alors, c'est pas un parfum.
C'est un encens,
ah non, c'est pas un album, c'est un parfum.
C'est un encens. Ouais. C'est un encens, c'est pas un parfum.
Comment il s'appelle? C'est Erika Spoussi, non? C'est quoi le nom?
Erika Spoussi, ouais. Tout simplement.
Et Gwyneth, c'est une bougie.
Tout à fait, Gwyneth Paltrow a fait une bougie d'ambiance.
Nouvelle tendance, je pense qu'on peut aussi merchandiser ça pour.
Comment tu dis Gwyneth?
Gwyneth.
C'est vrai qu'en français, ça sonne bizarre.
Je suis un gros fan d'Erika Badu, j'achèterai pas l'encens. Question suivante, elle est un petit peu plus difficile celle-là. Quel est le point commun entre Daniela Touati, Pauline Bébé, Fiora Chinsky et surtout Delphine Horviller?
Putain, je connais.
Ding, enfin j'imagine, peut-être qu'elles sont rabbins, non?
Oui, bonne réponse, Rokhaya. Bonne réponse. En fait, je comptais surtout sur Delphine Horvieler, qui est très connue, ouais. qui est la plus connue
oui,
des quatre. Voilà, qui écrit plein de bouquins sur.
Pauline Bébé.
C'est la première.
J'avais déjà, ouais, c'était.
Ouais.
Parce qu'avant, c'était que deux. En
oui,
France.
C'est ouais. ça. Enfin, là, elles sont quatre, en fait, parce que la Daniela Touati a été donc la première à avoir été ordonnée rabbin l'été dernier. Donc, c'est la quatrième femme rabbin de France. Pauline Bébé, c'est la première.
Ouais, c'est elle.
Et Delphine Horvieler, c'est la troisième, mais c'est la plus connue, parce que c'est elle qui est la plus médiatisée, qui écrit des bouquins, etc.
Du coup, petit point féminisation. Des noms, on dit rabbin.
Alors, parce que la rabbine, normalement, c'est la femme du rabbin.
Ah, c'est comme la boulangère
et l'ambassadrice. Ouais. Mmh. Alors, je sais pas quelle est la jurisprudence, mais du coup.
Ouais, là-dessus, j'avoue que je.
Ok,
j'ai pas...
non, mais c'est parce que comme on en parle beaucoup, enfin, on en parle souvent, c'est vrai.
C'est une bonne
que...
question. Ouais.
J'ai dit femme rabbin pour être sûr de, tu vois, plutôt que la première rabbin qui m'aurait paru chelou. Mais
je vous invite à aller écouter Parler comme jamais.
Parler comme jamais.
On parle beaucoup de féminisation. Voilà. On parle beaucoup de féminisation.
Le podcast.
3-2 pour KTR.
Remontada, remontada.
Me décevez. Dernière question de type classique. Qu'est-ce que la loi Crown ? Crown est un acronyme. Je vous mets un peu sur la voie. C'est un acronyme.
Ding ? Est-ce que c'est la loi sur la non-discrimination des coiffures
C'est une bonne réponse. Bonne réponse de Mélanie Wonga de Paris. C'est la pire imitation que je fais de ma vie. Oui, tout à fait. C'est une loi qui s'appelle donc Crown. Ça veut dire Create a Respectful and Open Workplace for Natural Hair. Et en gros, c'est une loi américaine qui interdit la discrimination capillaire dans les écoles et sur les lieux de travail. Il y a pour l'instant 3 États qui l'ont adoptée aux États-Unis.
C'est pas beaucoup.
Ouais, pas beaucoup.
C'est la Californie.
La Californie, tout à fait, l'État de New York et le New Jersey. Il y a d'autres États qui sont encore en train de voilà de d'examiner le truc, etc. Et en gros, c'est une loi qui permet de pas être discriminé lorsqu'on a des cheveux naturels, lorsqu'on a des locks, lorsqu'on a certaines coiffures désignées comme ethniques. Mm-hmm. Et donc, c'est une belle avancée. Rokhaya, tu penses que ce serait possible un truc comme ça en France
La loi cheveux.
Une loi communautariste. On voit déjà la polémique. Moi, je prends. Je n'imagine. Bah, déjà, en France, le CAP de coiffure ne dispense toujours pas.
Il n'y avait pas un truc, ça, c'était pas sur le point de changer, ça? J'avais lu un article qui allait dans ce sens-là.
En fait, il y a des personnes qui organisent des formations comme Aline Tacite et une autre femme qui est super, dont le nom, que je connais en plus, et son nom va me revenir, qui forme en fait les coiffeurs. Mais en fait, le CAP ne valide pas le fait de savoir coiffer les cheveux crépus. Ce qui fait que si on est coiffeur, ou coiffeuse aujourd'hui, qu'on est diplômé, donc on a certificat d'aptitude professionnelle, en fait, on n'est pas obligé de savoir coiffer les cheveux crépus. D'accord. Donc on en est vraiment là, c'est-à-dire qu'on a la base, en fait, ouais. n'est même pas intégrée, et c'est un diplôme de l'éducation nationale. Hein. Donc,
d'accord.
Donc non, pas encore.
Moi, je serais content que, juste, sans parler de la loi anti-discrimination, je serais juste content que déjà que chaque coiffeur et coiffeuse soit obligé, pour avoir son CAP par l'État, de savoir coiffer tous les types de cheveux.
Ce serait bien, ouais. Enfin, on se demande même comment c'est possible que ce soit légal.
Moi, ça me paraît une aberration, quoi.
Moi, je trouve aussi les acronymes de lois aux États-Unis, c'est de mieux en mieux, parce que nous, on a quand même des lois type loi Blanquer, loi de tous les ministres de l'Intérieur, et d'avoir une loi qui s'appelle Crown, qui donc fait référence aux Queens et Kings, je trouve ça quand même incroyable de pouvoir faire ça.
En France, ce serait la loi Couronne, tu sais, Conseil, ok, non, j'arrête pas.
Mais moi, je pense qu'en France, on va être dans le compromis, qu'on va faire ok, on fait un CAP, ok, interdiction de discriminer. Par contre, on peut vous toucher les cheveux. C'est un peu, on se retrouve à mi-chemin.
C'est les petits caractères, tu sais, c'est les trucs en petits caractères tout en bas du truc.
J'ai un ami blanc qui, une fois, a touché les cheveux de Mélanie
en
public.
Plus, à une visite du Paris Noir, quoi.
C'était genre, littéralement, mec, faut écouter le podcast. C'était littéralement les cheveux qu'il fallait pas toucher.
C'était ni le lieu, ni la personne, ni le moment. Ok, il y a 3 partout, je suis un petit peu rassuré, je respire mieux. On va passer à la question, au type de question suivante. Ce sont des questions à choix multiples avec parfois des pièges. C'est le nom de la rubrique. Questions à choix multiples avec parfois des pièges. Donc en gros, ça veut dire qu'il y aura des questions avec des choix multiples et parfois il y aura des pièges.
Okay.
On a compris.
Première question, l'actrice X, Kaylen Ward, a vendu des nudes contre des dons pour sauver la forêt australienne touchée par de forts incendies.
Ça,
tu peux pas faire
ding
puisque c'est plusieurs choix multiples. La question, et donc les choix qui vont suivre, c'est quelle somme a-t-elle récolté ? A-t-elle récolté 5 000 $, 300 000 $, 700 000 $ ou 1 million de dollars ?
Australien.
Ouais, pour les feux.
Non, parce que c'est une américaine.
Ah, c'est
des dollars.
Pardon, ouais. Okay, ouais.
Ding ?
Oui.
300 000 ?
Non.
Hein ? Ding ?
Oui.
1 million ?
Eh bien, non.
Ding ! 700 000.
Bonne réponse !
Ouais, elle a vendu des nudes pour sauver la forêt australienne.
Mais on lui avait pas supprimé ses comptes et tout.
Tout à fait. Instagram a supprimé son compte en disant qu'elle contrevenait aux règles du réseau social. Il y a toujours eu des problèmes entre Instagram et le côté nudité, et plus généralement les travailleuses du sexe, et puis les questions aussi de grossophobie. On a vu ça très récemment.
Alors
là, quand
les nazis, ça va.
Alors que la nazie, ça va.
Bah, ils sont pas nus, donc voilà.
C'est ça. Du moment qu'il n'y a pas de téton, du moment qu'il n'y a pas de téton au-dessus de ta croix gammée,
exactement,
ça va.
J'allais dire, est-ce qu'on peut censurer des tétons avec des croix gammées?
Moi, j'ai proposé de faire des news pour sauver les gens de Wuhan. Bon, apparemment, ça n'a pas pris comme les koalas. Parce que l'empathie envers les animaux sauvages, ça marche quand c'est des kangourous, mais quand c'est des
gens.
Des rumeurs sur des chauves-souris, ça ne va pas du tout. Quoi. Donc, c'est. Bon, voilà.
C'est triste. 4-3 pour le chip, nous continuons aux victoires de la musique. Lequel de ces artistes était nommé cette année dans la catégorie musiques urbaines? Vous avez le choix entre Niska, Aya Nakamura, Soprano ou PNL.
Ding,
ding.
Non. Kevin était plus rapide.
Soprano?
Non.
Ding.
Oui.
Vas-y. Aucun.
Pourquoi?
Il y avait pas de catégorie musiques urbaines.
Bonne réponse, il y avait un piège.
Mais Kevin, je l'ai mis dans le groupe WhatsApp, quoi. Kevin.
Kevin, tu me déçois d'une force, tu n'as pas idée. Je suis même pas en colère, je suis déçu.
C'est encore pire.
Il y avait 8 catégories cette année au lieu de 13.
Tout à fait.
Ils ont enlevé toutes les catégories.
Ils ont dit, bon, allez là, il y a trop de noir et d'arabe, voilà.
On nettoie.
Donc, ils ont enlevé musique urbaine, musique du monde. Il y a eu
il y a une autre catégorie, c'est qui est pas forcément connotée, mais qu'ils ont retiré, qu'ils ont enlevé, mais je sais plus laquelle.
Ils l'ont enlevé pour le fun.
Ils ont expliqué leur décision.
pas intéressant. Ouais.
Bah, en gros, ils veulent que les artistes de ces catégories-là concourent contre tous les autres soi-disant. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas été nommés dans les catégories plus classiques, quoi. Donc
en fait, ils concourent pas.
C'est ça.
Salut. Je trouve ça hyper compliqué à comprendre pour beaucoup de personnes, parce que aux Grammys cette année. Alors, il faut que vous m'aidiez sur la personne qui a dit ça.
Igor.
Parce que
Tyler the Creator.
Voilà, Tyler the Creator.
Qui a donc s'est exprimé sur le fait qu'il y avait une catégorie musique urbaine aux États-Unis, ça s'appelle.
C'est comment ?
C'est album, rap urban, album. Rap album.
Rap album.
Rap album, je crois.
Et que du coup, les artistes noirs américains sont circonscrits, enfin, ne peuvent pas sortir de cette catégorie-là.
Alors même Beyoncé.
Oui, bah, parce que là, ça se justifie pas par le type de musique. C'est-à-dire que t'as l'impression que, parce que, quand même, musique urbaine en France, c'était vraiment des rappeurs, en fait, qui étaient nommés à chaque fois. Alors que là, c'est vraiment, en fait, ce sont des noirs, quel que soit le type de musique qu'ils font, qui
sont
nommés.
Noirs. Ouais, ils sont dans cette catégorie-là.
Ça, inversement, t'es noir, mais tu fais pas de la musique urbaine. On va t'enfermer dans la catégorie musique urbaine.
Ouais,
parce que
ça.
T'es une personne racisée.
Ouais, c'est
quoi.
Ça. En fait, c'est ça. Et en France, de toute façon, si t'es pas dedans, en fait, t'es même pas nommé.
Et puis en France, le truc, c'est que, bah, on en avait parlé, mais il y a souvent des personnes blanches qui gagnent cette.
Ah, bah, il y a que ça.
Ce qui est drôle, c'est que les musiques urbaines. Ce qui est drôle, c'est que du coup, les musiques urbaines ont été supprimées cette année des victoires de la musique, et donc avec elles, toutes les chances, on va dire, de personnes racisées de gagner. Ouais, ouais. Par contre, l'homme pâle était quand même dans le palmarès, ça a été nommé dans plusieurs catégories. Alors là, par contre. Bref, je vous laisserai sur ces réflexions. 4 partout, question suivante, combien y a-t-il, alors je vous préviens, ces questions-là il faut la prendre avec des pincettes parce que j'ai pas vérifié mais j'ai pas de source absolue parce que j'ai pas vérifié un par un, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Combien y a-t-il de députés d'origine asiatique à l'Assemblée nationale en France?
Oh, bah, y en a au moins.
Où commence l'Asie?
J'aime bien, tu comptes sur tes doigts.
Moi, j'en ai identifié comme toi.
Attends. Alors, on va les compter ensemble.
Moi, j'ai une réponse, mais si vous avez une réponse qui est différente et vous les citez, c'est que c'est vous qui avez raison. Hein. Mais il faut dire Ding, par contre.
Ouais. Ouais. Ding.
Alors, vas-y.
Vas-y, dis.
Non, attends, je ne sais plus. On peut les nommer. Il y a Stéphanie Do.
Ouais.
Il y a Buntan,
ouais.
Qui est dans le 13e.
Ouais.
Voilà. En député.
Moi, je pense qu'il y en a deux.
Eh bien, c'est une bonne réponse.
Il
y en a deux. Il y avait Joachim Sonneforger avant, qui était LRM, mais qui a été.
Ah, bah, il y en a trois, en fait.
Bah, non, il a été radié, du coup, Sonneforger.
Oui, mais il est toujours député.
T'es sûr?
Ah, oui,
il est radié. Trois.
Ah. Il a été viré de LRM, mais il est toujours député.
Elle a dit deux, moi, j'ai dit Ding, trois.
Eh bien, voilà, Joachim Sonneforger, donc français de l'étranger.
Jean-Vincent Placé?
Non, lui, il est sénateur.
Il n'est pas député. Ouais, ouais. Mm. Ouais, donc Bontan, qui est né au Cambodge et 9e circonscription de Paris, et Stéphanie Do, donc né au Vietnam.
Dans le
10e circonscription.
Ouais. C'est ça, c'est
Seine-et-Marne, je crois.
Seine-et-Marne, 77, ouais. À Logne, voilà. Quoi.
Ouais,
ouais.
5-4. T'avais
non, je pensais, grâce. Non, mais elle était suppléante, Delphine.
Ah
o.
oui, Delphine,
elle était suppléante.
Mia Majoubi a repris son siège, donc non.
Non, on compte pas Kelly Roland et
Non, parce que quand il était au gouvernement, elle siégeait. Du coup, à un moment, il y en a eu 4.
On a pété le score, là.
Ça fait pas beaucoup, quand même. Hein,
ça fait pas beaucoup.
En même temps, ce sont les premiers. Il y en a jamais eu avant.
Et avant, il y en avait pas.
C'est la première vague, c'était en 2017.
Finalement, c'est un progrès.
Ouais, il n'y en avait pas avant. Ouais. Et aussi, avant, il n'y avait que des. Il y avait des personnes publiques, donc politiques, qui étaient. D'origine, enfin, qui était coréenne, d'origine adoptée, enfin, qui était adoptée, d'origine coréenne, mais adoptée, notamment Fleur Pellerin, Jean-Vincent Placé, et qui, du coup, était asiatique, de l'extérieur, si tu veux, mais qui n'était pas forcément, sensible aux revendications des personnes asiatiques en France, qui n'avaient pas été dans, voilà, dans les mêmes communautés, ES, voilà. Okay. Donc,
Et combien y a-t-il de députés français en Chine? Parce que vous êtes en train de dire qu'en France, on est en retard, etc. Mais je suis désolé.
À Rome, faut vivre comme les Romains.
Hein. Et combien, pardon, excuse-moi. Et par rapport aux personnes noires à l'Assemblée nationale, on sait combien il y a de personnes qui sont.
Bah, on a failli avoir un président.
Mais non, c'est au Sénat.
Oui, c'était au Sénat, ça.
Non, il y en a, ouais, y en a quand même pas mal.
Il y en a pas mal.
Déjà, il y a l'Outre-mer.
Donc, avec l'Outre-mer,
ça fait une douzaine.
Puis il y en a quelques-uns, même en Ile-de-France.
Ouais. En Ile-de-France et tout, ouais.
Puis il y en a plusieurs même qui sont devenus français. C'est aussi pas mal de députés, enfin pas seulement noirs, mais qui sont naturalisés, qui ont été naturalisés il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Donc c'est aussi intéressant, qui sont nés à l'étranger et qui ont grandi à l'étranger avant de devenir français. Comme celle qui avait refusé la loi immigration, là, qui a été élue en Bretagne. Sonia Crimi.
Oui, non, c'est ça. Ouais. je l'avais pas. 5-4 pour l'équipe KTR. Alors, en parlant justement de députés d'origine asiatique, laquelle de ces informations à propos de l'ex, non, du coup, député, excusez-moi, du député Joachim Son-Forget est vraie? Je vais vous donner 4 infos et vous devez me dire laquelle est vraie. Il y en a une qui est vraie. Il sait manier le sabre laser. Première info. Il va se présenter à l'élection présidentielle de 2022. Deuxième info. Il s'indigne contre le racisme anti-asiatique sur Twitter. Troisième info. Il a écrit une chanson avec Doug Gineco.
Il n'y en a qu'une des quatre qui est vraie.
Ah, bah, ding! C'est la 2. Il se présente en 2022 avec dans un parti qui s'appelle Valeurs. J'allais dire actuelle, mais c'est pas valeur actuelle, c'est valeur sûre. Un truc avec des valeurs. Et avec Benalla.
Donc, tout à fait. Benalla qui se font des hats, des buddies, son Twitter buddies sur.
C'est l'association de malfaiteurs, quoi.
Moi, j'ai un dossier Joachim Son-Forget dans mon ordinateur parce que je dois garder ces trucs
la veille.
C'est
possible.
C'est du compromat, ça.
On voit des trucs, on se dit non, s'il te plaît.
Je vais le suivre tout de suite.
En vrai, il est totalement problématique, mais je le trouve complètement dingue, ce gars. Il me fait rire. Au fond, en vrai, mais il est totalement problématique.
Mais il a aussi écrit une chanson, pas avec Gineco.
Il devrait être rappeur, c'est ce que je me dis.
En fait, c'était une mauvaise réponse, au fait, hein, j'ai oublié de dire. La bonne réponse, c'est que toutes les infos sont vraies. C'était un piège. Ouais, il a fait une vidéo, où il maniait un sabre laser sur les réseaux sociaux
au moment où.
Au moment où il s'est fait menacer par LRM de se faire évincer, il a dit ouais, je vous attends, on va régler ça. Et il a fait une vidéo avec un sabre laser. Il va se présenter à l'élection présidentielle. Enfin, c'est ce qu'il dit en tout cas. Il s'indigne quand même aussi sur le racisme anti-asiatique sur Twitter.
Je voudrais quand même mettre un bémol sur cette réponse-là.
C'est des dérapages sexistes.
Parce que je trouve que s'indigner, c'est. Je trouve pas que c'est une personne qui lutte efficacement contre le racisme anti-asiatique.
Il fait des tweets, le mec. Ensuite,
qu'il ait un agenda derrière des tweets qui dénoncent le racisme anti-asiatique, peut-être.
Il est clairement, woke, quoi.
Mais qu'est-ce qu'il a dénoncé, en fait?
Non, dernièrement, il a tweeté sur Isabelle Balkany en disant que personne ne faisait rien contre le racisme anti-asiatique, mais c'était en réaction à un post de quelqu'un. Enfin, du coup, je suis dans l'approximation totale parce que je ne sais plus de quoi ça relevait.
Après,
mais
on est
pas
obligé
cas,
de garder toutes ces informations dans son cerveau. Hein.
C'était pas du tout une indignation pour le racisme anti-asiatique, enfin contre.
Ouais, c'était un truc politique.
C'était un truc pour dire oui, enfin. Et là, vous ne faites rien. Enfin, c'était vraiment. Ça servait à rien.
Où étiez-vous?
C'était où étiez-vous?
On va le placer. Où étiez-vous?
Où étiez-vous?
Il faut vraiment que vous écoutiez sa chanson avec Doc Gynéco. C'est un. C'est
moi, je l'avais entendu, mais j'avais oublié Doc Gynéco en fait. Ouais, je pense que là, pour le coup, mon cerveau a activement effacé.
Ah ouais, tu l'as refoulé de ta mémoire.
C'est ça. J'ai juste gardé lui et sa chanson, mais.
Je pense que t'as bien fait.
Mais il devrait être rappeur quand t'es Messi comme ça et que t'as plein de trucs.
Ah non, mais ce mec est multi.
Sur ton CV.
Ah ouais, multi-talent. Multi-talent. Ouais, ouais. Je l'adore. Une mascotte, ce mec. Personne n'a eu la bonne réponse. Du coup, il y a toujours 5-4 pour la team.
Remonte
la team KTR.
Tranquille.
Elles sont en grève depuis juillet dernier pour protester contre leurs conditions de travail qu'elles qualifient d'esclavagisme moderne. Qui est-ce ?
Ding ? Des coiffeuses de chat.
Mais t'as pas le droit de faire sur les questions.
Il faut d'abord attendre les choix multiples. J'ai envie d'enlever un point au chip juste pour cet affront, mais
je suis désolé,
pour le chip, forcément. Voici les quatre choix. Donc, qui est en grève ? Les sages-femmes de la maternité de Port-Royal, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis de Clichy-Batignolles, les agentes SNCF de la gare de Toulouse, les stylistes de Cardi B.
Ding, ding, ding.
C'était Rokhaya qui était rapide.
C'est les femmes de chambre de Batignolles.
Tout à fait, ce sont les femmes de chambre.
Qui sont en grève depuis très longtemps.
Ils sont en grève depuis juillet 2019.
Ouais, enfin, quand on parle de féminisme et de femmes noires, pour le coup, je trouve qu'elles sont exemplaires. D'ailleurs, il faut dire qu'il y a des cagnottes pour les soutenir parce que c'est une très longue grève. Ce sont des femmes qui sont vraiment maltraitées, qui sont pour la plupart d'origine africaine et pour la plupart des femmes immigrées. Donc, c'est assez admirable de leur
part. Bien sûr. Et c'est aussi une façon de... Enfin, on aime beaucoup parler de classe en France, mais là, clairement, quand tu regardes qui en France est éboueur et balayeur ou femme de chambre, bizarrement, ce sont des personnes racisées.
Aussi, ouais,
et je pense que c'est un truc qui est à prendre en compte. Il y avait Ruffin, tu te rappelles François Ruffin, ton gars,
mon
ton pote.
C'est plus un croche ? C'est plus un croche ?
Je pars de cette salle.
T'es obligé de choisir un croche blanc, j'ai fait non, ok. Non. Et puis après, entre temps, il a fait des trucs qui l'ont.
Des dingueries.
mais juste, je voulais savoir, c'est quoi les bails avec les coiffeuses de Château Rouge ?
Non, de Château d'Eau, c'était avant en plus. C'était pas en 2019.
Il y a longtemps.
Il y a eu une décision de justice pour ces femmes qui leur ont donné raison, je crois. Non, enfin, ça, je sais plus exactement la chronologie.
Passeport confisqué, sous-payé, etc. Et avant les femmes de Batignolles, je tiens aussi à parler des femmes du Hayat de la place Vendôme
tout
qui avaient fait grève il y a 2 ans, je pense, et qui ont obtenu justice. Et franchement, c'est.
Dans ma tête,
c'est
le même mouvement.
Même, exactement.
Ça fait longtemps et, les problématiques sont similaires.
Complètement identiques, ouais.
Ça fait donc 6-4 pour l'équipe KTR.
Je fais de la minée, Kevin.
On va parler de Roman Polanski.
Super.
Je préfère vous le dire.
C'est choix multiple, c'est comment ?
C'est choix multiple toujours.
Okay. Il a pas compris la
Roman réplique. Polanski a-t-il plus, moins ou autant d'accusations de viol que de nominations au César en 2020 ? Voici vos choix. Plus, moins, autant.
Ding.
Aucun des trois.
Ding.
Aucun des trois, il est innocent.
Ding.
C'est
ding.
J'ai
dit avant, c'est vrai.
C'est vrai que j'avais pas.
Non, mais il faut que tu nous annonces combien de questions.
Parce
que
c'est toujours 4. C'est toujours 4.
Ah.
Je sais pas, la loi des séries. Mélanie, je t'écoute.
Plus.
C'est une mauvaise réponse.
Ding.
Oui. Ok.
Moins, il me semble que c'est 10 accusations de viol et 12 nominations au César.
C'est une mauvaise réponse également.
Ah ouais ?
Ding. C'est autant.
Tout à fait.
Ah ouais ?
Est-ce que tu peux me dire combien, grâce ?
12 nominations au César et 12 accusations.
Je crois qu'il en avait 18 des accusations.
Moi, je crois qu'il en avait 10.
Je croyais que tu allais dire ça pour les nominations. Je crois qu'il avait dit nommé 10.
Non,
10 fois.
C'est pas 10 accusations de viol, c'est 12.
Non, c'est 12. Il a eu, il a 7 accusations, 7 témoignages de femmes à visage découvert, plus 5 femmes en Israël qui ont témoigné anonymement contre lui. Ce qui porte donc le chiffre à 12 et c'est le nombre de ses nominations au César. La réponse
est
donc.
Qu'ils aient tous démissionné.
Ouais. Mais du coup, quelle est la suite de ça ? Pour l'instant, il n'y a pas eu de. On sait
alors,
pas.
Alors oui,
va se passer.
Voilà, on sait que l'Académie des Césars du coup a démissionné. Ouais, c'est compliqué de savoir ce qui va se passer ensuite. Là, il faut qu'ils reforment le jury, etc. Et puis, est-ce que ça va avoir un impact sur la cérémonie ?
Oui, sur les personnes nommées.
Grande soirée dans l'agenda féministe. Notez, on sera tous là.
Ouf. On va passer maintenant aux questions OSEF.
Ok.
Les questions OSEF, c'est les questions. Ou la personne qui a la bonne réponse doit nous donner une information personnelle à propos d'elle dont on n'a absolument rien à foutre. Donc, OSEF. Est-ce que vous êtes prête ?
Ouais.
Okay. Pourquoi Adama Cissé a-t-il été licencié par la mairie de Paris ?
Ding, ding.
Alors, c'est Kevin qui a été plus rapide, je crois.
C'était un agent de la mairie de Paris qui avait un problème avec ses chaussures, c'est ça ? Je crois, un problème de... Enfin, bref. Et en tout cas, il a été photographié en train de dormir, enfin, d'être allongé, plutôt. Et ça a été...
Pendant sa pause.
Pendant sa pause, voilà. Et ça a été partagé. Il s'est fait virer.
C'est une femme qui l'a prise en photo, qui l'a posté sur sa page Facebook et c'est elle qui est à l'origine de ça.
En fait, en gros, j'ai vu les titres. Hein. J'ai pas lu, mais on a tellement parlé, j'ai le point.
Il faut qu'on retrouve le nom de la personne parce que c'est une personne qui est identifiée.
Et il a retrouvé un travail après, j'ai vu.
Ouais. Tout à fait.
Et c'est pas, il me semble qu'il n'était pas employé de la mairie de Paris, mais d'une boîte privée.
Ouais.
Sous-traite. Mais que font les managers de rue voulus par Benjamin Griveaux petit ange parti trop tôt. Ça fait donc 7-5.
Et on va découvrir un truc sur Kevin, c'est ça?
Ah oui, j'ai presque oublié. Alors on veut une information.
Kevin, des propres règles.
Par exemple, vous serez ravis de savoir que je parle tout seul.
Non, tu me prends à brûle pour point.
Parce que moi j'en ai une. Sur toi.
Dont on a rien à foutre.
On sait pas si on la garde. Hein. Vas-y, dis. Et ce sera éventuellement un peu montage. Vas-y,
Bah, quand on va chez toi et qu'on fait pipi, enfin, quand tu fais pipi, on entend tout parce qu'il y a juste un rideau qui sépare tes toilettes de ta salle de bain.
Et la bonne nouvelle, c'est que je déménage la semaine prochaine. Donc,
on va vite venir chez toi pour entendre le
tous les auditeurs du Chip et de KTR sont invités à la dépendaison de crémaillère.
Ouais.
Pour aller faire pipi dans les toilettes.
Ça fait donc 7-5. Quel surnom raciste, Isabelle Bacani, vous me laissez finir ma phrase avant de dire ding. Quel surnom raciste, Isabelle Bacani, donc la mère par intérim de Levallois, donne-t-elle à son employé cambodgien?
Ding.
Kevin.
Ah c'est sale, hein. Et là, ah, je suis désolé.
Là,
hein.
Et là il va se tromper.
Grinderie.
C'est une bonne réponse.
Deuxième anecdote, Mélanie, t'en as une autre à propos de moi dont
non, apparemment tu connais Kevin très bien, enfin mieux que Kevin se connaît lui-même en tout cas.
Non, bah non, un truc aux F.
J'en ai une, mais tu peux aller en prison, donc je vais pas.
Non, aller. Pas celle-ci. Oh. non, mais je reviendrai vers vous.
Alors, je voudrais rectifier une question, je voudrais avoir un point pour ça. Vas-y. Parce que l'employé est d'origine vietnamienne et non cambodgienne. Ah, ça mince. A été signalé par Madame Balkany, apparemment.
Attention, Grinderie, vous êtes raciste là. Grinderie n'est pas cambodgien.
Pas d'amalgame, pas d'amalgame.
La meuf qui s'est gourée de combat, tu sais.
Non, mais j'avoue.
Elle a d'ailleurs dit « ça le vexe », entre parenthèses. Elle a fait un communiqué
elle l'a défendu.
Ce que j'adore, c'est qu'elle a peur de rien.
Elle
c'est
clair. Née avant la honte, comme on dit, c'est l'illustration parfaite. ça le vexe. Ouais. Si tu dis qu'il est cambodgien, ça le vexe. Par contre, quand tu l'appelles Grinderie, oui, apparemment, il adore. Ouais. Alors moi, selon elle. Hein,
j'ai une petite anecdote, du coup, c'est anecdote équipe Chip. Ma sœur fait des études de droit, enfin, termine bientôt ses études. Et elle a été amenée à travailler dans un cabinet qui travaillait avec Isabelle Balkany. Et la première chose qu'elle lui a dit quand elle l'a vue, c'est « Ah, mais vous venez d'où ?» Immédiatement, quelle premier horreur, truc.
Ah là là.
Et du coup, voilà, c'était...
Bah, je suis d'accord avec Isabelle. Je lui ai dit en début d'émission, ça ne me pose aucun problème. Deuxième anecdote qui vit super problématique.
Voilà.
Ça, on s'en fout pas. Ça fait donc 7-6, toujours pour KTR. Question suivante, l'agence Associated Press a fait polémique en publiant une photo du sommet environnemental de Davos. Pourquoi?
Ding.
Alors, je crois que la vidéo était plus rapide.
Et là, oui, d'accord. Ok. Alors, c'est parce qu'ils avaient coupé... en fait, ils avaient fait une photo de plusieurs jeunes activistes féminines et ils ont coupé la seule activiste qui s'avère être noire et qui s'appelait Vanessa Nakate.
Tout à fait.
Et donc, ça a fait polémique, effectivement, puisqu'après, ils ont republié la photo cette fois qui n'était
allez,
pas...
Allez, un point de plus si t'as ta nationalité. Non, je déconne.
Ah si, moi, je sais. Je prends les miettes.
Allez,
questions,
vas-y, grâce.
Parce que Rokaya me l'a. J'avais dit un truc faux, elle m'a corrigé. Elle est ougandaise.
C'est... Allez, vous savez quoi? Je vous mets le point.
Mais toi, tu les tiens, quoi.
Je suis arbitre, je suis maître du jeu. Du coup, ça fait 8-7 pour 4.
Du coup, vous
super.
Du coup, il y a deux anecdotes. Comment on fait?
Du coup, il y a deux anecdotes.
Alors, déjà, on commence par grâce.
Alors, quelque chose qui, à mon avis, j'aime beaucoup les plantes d'intérieur. Voilà. Ici, c'est un ficus lirata en très mauvais état dans cette salle de binge audio. Je pense qu'il faudrait l'arroser, Quentin Bresson, parce que là, je pense qu'elle pleure. Voilà. Et dernièrement, j'ai acheté un pilea.
Ça marche très très bien. Très bonne anecdote. On a vraiment rien à foutre. Et toi, Mélanie?
J'ai une anecdote que j'ai un chat qui s'appelle Simba, comme le personnage principal du roi.
Ah, je trouve que c'est un peu facile.
Non, mais on s'en fout.
Ouais, c'est vrai qu'on s'en fout.
Moi, je le connais, donc je m'en fous pas. Mais...
Ouais, non, mais ok. Ouais. Non, mais
Simba
okay.
est très câlin. Voilà.
Ça fait donc 8-7. Dernière question, Osef. Quelle autrice et scénariste de BD est morte le 10 février dernier
Ding.
À l'âge de 79 ans? Il faut me laisser finir là.
Ding.
Phrase.
Ding.
C'est toi, Mélanie.
Claire Bretéché.
Oui, Claire Bretéché, l'autrice
Agrippine.
Agrippine.
J'ai lu ça gamin, moi.
Du coup, on va pouvoir apprendre encore une super anecdote à propos
de toi.
Excellence.
Ouais, White Excellence. Très bien.
Vas-y.
Ah, une autre anecdote.
Ouais. Moi, je soupçonne Rokhaya de pas avoir fait de ding parce qu'elle peut pas raconter de trucs.
Nous avouer ses secrets.
Ah oui, c'est ça.
Parce qu'elle est très, secrète, Rokhaya.
Non, après, les anecdotes aux F, c'est facile. Hein.
Vas-y, tu sais quoi, je te donne le point si tu veux donner la... Non, je déconne.
En fait, je donne mon anecdote à Rokhaya parce qu'on en a tous.
Tu donnes ton anecdote, mais voilà, le point reste quand même au chip parce que je veux qu'il y ait égalité quand même.
Vas-y, Rokhaya.
Vas-y.
Il n'y a pas un jour, je ne mange pas du chocolat.
Ok. Vraiment, c'est absolument
tous les
jours.
Quel type de chocolat?
Toutes sortes de chocolat.
Est-ce que tu considères le chocolat blanc comme étant le chocolat?
Non. Ce n'est pas du chocolat.
Une politique, une polémique va se lancer sur
toi. Non, mais là...
T'es vraiment anti-blanc juste là.
Chocolat, c'est noir.
Où étiez-vous? Mais attends, j'ai entendu littéralement un humoriste américain expliquer que le chocolat blanc, c'était le chocolat pour les racistes. Parce que c'était genre, vous adorez la saveur du chocolat, mais vous supportez pas de voir la couleur. Pour vous, le chocolat blanc, par ceux qui vous inventez Jésus blanc. Tu vois, c'est un peu le
truc. Oh, ça va très très loin, ouais. Tout ça. Il y a donc 8 partout. Et c'est la dernière section de ce petit jeu.
Ah.
Ceci est la question empoisonnée. La personne qui aura la bonne réponse aura un choix relou à faire après la réponse. Quelle légendaire chanteuse afro-américaine morte en 2012 fait une tournée mondiale sous forme d'hologramme cette année?
Ding.
Ding.
C'est Rokhaya qui a dit ding, pas toi.
J'ai dit le début.
Ouais, mais après j'ai un choix relou, donc Whitney Houston.
C'est une bonne réponse, Whitney Houston. Voici ton truc relou. Est-ce que tu préfères, en termes de chance de survie, est-ce que tu préfères être un personnage de Game of Thrones ou la noire dans un film d'horreur?
T'es noire aussi dans Game of Thrones ou pas?
Bah non, mais sinon...
Je sais pas.
C'est un vague esclave dans le fond, là.
Non, on va dire que t'as un personnage semi-secondaire, tu vois.
T'as un personnage féminin dans Game of Thrones, donc il va t'arriver des trucs...
Non, mais je préfère être une noire dans un film d'horreur parce que le stress de pas savoir quand tu vas mourir, c'est chiant. Alors que film d'horreur, c'était
vraiment... Tu sais que tu vas crever.
Tu sais que t'es mort la première, donc tu vois, t'as pas trop de palpitations, quoi. Game of Thrones, ça peut durer longtemps, tu vois.
D'accord. Donc, mais du coup, tu fais le choix de mourir plus vite. Tu préfères pas avoir une petite chance de survie, parce que là, il fallait quand même choisir un choix de survie, quoi.
Moi, je suis un peu douillette, donc.
D'accord, tu préfères que ça se finisse vite.
Je sais pas, peut-être que, mais voilà, si je suis blessée gravement. Puis le stress de pas savoir que finalement tu meurs.
Ouais. Non, c'est vrai. Là, au moins, tu sais que tu passes en première.
Tu meurs, c'est propre, voilà.
Ouais, c'est comme quand tu prends ton ticket, tu sais, à la sécu.
C'est ça, voilà.
Tu sais que t'es numéro 55, y a pas de souci. Très bien. Il y a donc 9-8 pour KTR. Je vous regarde très méchamment, le chip.
Et ouais, non, mais juste, parce que j'ai dit amputé tout ça, je sais que c'est hyper validiste comme propos, mais c'est juste la peur de la souffrance plus que de la survie en étant handicapé.
Bien sûr. Quelle chanteuse connue, et vous me laissez finir la phrase. Quelle chanteuse connue grâce à The Voice a fait sensation sur les réseaux sociaux en enlevant son voile?
Ding. Ménel.
Tout à fait, Ménel. Oui. Tu as gagné un truc relou. Est-ce que tu préfères regarder l'intégralité des spectacles de Jean-Marie Bigard? Ça fait quand même 17 spectacles, hein. C'est pas mal. Je compte les best-of parce qu'il n'y en a jamais assez.
Bigard pour Bercy.
Ou alors écouter l'intégralité des albums de Patrick Sébastien, ce qui monte le compteur quand même à 19 albums. Hein.
Il a fait 19 albums depuis le début de l'année 80.
Je compte pas les singles, mais je compte pas non plus les featuring et les mixtapes.
Ah mon Dieu.
Mais je compte les best-of. Qu'est-ce que tu préfères et pourquoi?
Entre choisir entre le son et le visuel ou juste le son, je vais prendre les 19 albums de Patrick Sébastien.
C'est sûr, parce qu'un album...
Non, Jean-Marie Bigard, je peux pas. Et en plus, tu le vois. Parce que tu
peux faire autre chose en écoutant un Patrick Sébastien.
Mais oui, tu fais le ménage, tes affaires, tu te balades.
Ok, alors je rajoute une condition. Par contre, si tu écoutes Patrick Sébastien, il faut que tu l'écoutes très très fort pour tes voisins entendent et sachent que tu n'aimes pas Patrick Sébastien.
C'est de la triche, ça.
Non,
j'écoute les albums. Je me sacrifie pour la cause.
Moi, je subis plus la musique, alors que c'est vrai qu'on peut faire quelque chose en même temps, mais le temps me paraîtrait plus long que de mater un spectacle qui est fait pour couler plus vite. Ouais, non, mais t'es obligé de regarder l'écran quand même, sinon c'est pas... Mais d'accord, très bien, j'entends ta
réponse. Si je peux me permettre un truc, apporter un turban, Ménel Ibtissem, hein, c'était pas un voile.
Ah, désolé. J'ai fait la... Mais très bien, heureusement que tu me corriges. Mais par contre, le point va toujours...
Non, mais c'était pour préciser. C'était pour préciser.
N'essaye pas de gratter, Rokhaya.
C'était pour préciser, c'était pas un voile. Non, parce qu'on a fait un épisode sur Sarah sur le voile. Et c'est,
t'as raison de le préciser. On fait, en plus, tout le monde en France fait l'amalgame. Niqab, hijab. Tout ça, donc c'est important de faire les distinctions. Il y a actuellement 9 partout. Et
c'est insoutenable.
J'ai même pas fait exprès, mais c'est la dernière question.
Oh
my god.
J'ai même pas fait exprès. Hein. Moi, j'étais ouvert à ce qu'il y ait une égalité et qu'on se sépare dans la paix du Christ.
Ouais, c'est pas ce que t'as dit tout à l'heure, mais bon.
Ça va être une question de rapidité en plus. Hein. Donc. Okay.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans Le cœur sur la table.
Quel acteur et scénariste s'est fait étrier sur les réseaux sociaux après avoir fait une blague raciste sur le coronavirus ?
Ding !
Oui, grâce.
Nicolas Bedos.
Oui, Nicolas Bedos. Ouais.
Il a fait une vidéo de lui, c'était une story, où il était en vacances. Enfin, il était en vacances, il était dans une piscine, donc je pense qu'il était en vacances. Et il y avait deux touristes d'origine asiatique derrière lui à un bar de vacances, à les bars qui donnent sur la piscine, là. Et il a fait une petite histoire, avec la voix des personnages en disant « Tu veux une bière, chérie, une Corona ?» Enfin, je sais plus, voilà, un truc comme ça.
Et il a dit, ah, je me sens fiévreux, etc.
Ah là là,
quel pauvre tâche.
En plus, les personnes à visage découvert, enfin, vraiment, total, quoi. Et c'est pas la première fois.
C'est pas la première fois.
Il avait fait des trucs sur ses vacances au Kenya. Et il avait fait un truc sur la Guadeloupe aussi.
Sur la Guadeloupe aussi,
ouais. Tout
c'est ça. Et nous, moi, je suis partie d'une association qui s'appelle Les Indivisibles et qui organisait les Yabon Awards à une époque.
Oui.
Qui décernait les pires trophées, les trophées des pires phrases racistes.
Il en a eu un.
Et on avait nommé Nicolas Bedos pour son truc sur la Guadeloupe.
D'accord. Est-ce qu'il aurait autant de nominations que Polanski à une époque?
Il est bien parti pour.
D'accord.
Et justement, quand il y avait les Yabon Awards, quasiment personne ne venait. Et il y a une personnalité, c'était pas Christophe Barbier.
Christophe Barbier est venu. Il est venu chercher son prix.
Ouais. Il a voulu faire comme Hailey Berry, tu sais, lorsqu'elle est venue prendre son Radio Award.
Ou alors il est venu pour le buffet. Hein.
Il n'a pas autant de panache. Moi, je vais vous confier un truc, c'est que j'aime bien OSS 117. J'étais...
Ah bah, le prochain, il
est voilà, ouais.
Assez salé. Hein.
Et j'avoue que moi, je trouvais que notamment le 2, là, au Brésil, était plutôt bien senti sur la vieille France, les clichés racistes, et enfin, surtout antisémites, etc. Et j'avoue que je suis un peu inquiet à l'idée de voir Nicolas Bedos. Autant voilà que Azanavicius se saisisse de l'antisémitisme, je vois aucun problème parce qu'il clairement il est bien placé pour le faire. Mais voir Nicolas Bedos se saisir d'un OSS 117 qui déjà va être une licence difficile à ressusciter, qui est déjà sur un truc, vous savez, un créneau humoristique borderline.
2000 quoi, OSS.
Ouais,
moi, je pense que ça a très mal
et emmener OSS 117 en Afrique noire, puisque le prochain OSS 117 c'est Nicolas Bedos qui le scénarise et ça s'appellera Panique Alerte Rouge en Afrique noire. Je suis pas à l'aise en fait.
Rien que le titre déjà, t'es là genre.
Tout le monde a mal à la tête.
Attention, soyons clairs, j'irai le voir. Mais ça va être tellement problématique.
J'ai besoin d'aller le voir pour
et je comprends pas. Alors, c'est mon deuxième crush, Pierre Niney, mon deuxième crush blanc. Pourquoi il est allé faire ça? Enfin, je comprends pas, quoi.
Non, franchement.
Mais moi, j'ai une vraie question sur ces films que tu dis des années 2000, tu vois, qui donc demeurent en 2020.
Ouais.
Est-ce que dénoncer ces enfin parce que moi OSS 117 il me met tellement mal à l'aise depuis le début que je sais pas en fait s'il faut enfin je sais pas s'il faut c'est que pourquoi est-ce qu'on finance des films à coups de millions qui vont faire perpétuer ces clichés sur des populations qui sont toujours les mêmes, on va dire, on tape toujours sur les mêmes. Est-ce que ça fait 20 ans qu'on le fait, ça ne change pas, c'est même pire? Est-ce que du coup il y a une place pour cet art là, alors art dans tous les sens du terme, c'est-à-dire est-ce qu'on doit financer à coups de millions des films qui vont continuer, on pense que ça dénonce, ça dénonce rien, cette
ça dénonce. Parce que moi en fait je trouvais ça assez drôle OSS 117 dans le sens où le personnage principal est ridicule.
Ouais, on se moque de racisme français à la française.
Il incarne la France gaulliste, même le côté dictature de la 5ème République est vachement bien dénoncé. Du coup je trouvais que
les
tu pouvais pas avoir d'empathie pour lui parce que tu voyais qu'il était teubé et qu'il incarnait dépassé, en fait. Une époque révolue et que le monde changeait autour de lui sans qu'il s'en rende compte. Et du coup, voilà. Et Azanavicius, c'est quand même un bon réal, quoi. Là, franchement, Bedeau, ça fait peur parce que lui-même, tu vois que dans ses blagues, il est encore dans les années 60.
C'est ça.
Bah c'est parfait alors, parce que du coup le personnage en vrai ça se passe entre les années 50 et 60 et en fait il représente cette France qui est en train de se faire dépasser.
C'est ça. Mais le problème c'est qu'il est pas,
mais c'est
pas
lui qui a la distance pour faire ce
film. Parce qu'il y a une série un peu dans le même esprit sur Arte, quoi, c'est ça, au service de la France, tu vois, qui est un peu dans cet esprit là mais qui défend, qui dénonce un peu cette, enfin il y a un truc de dénonciation. Moi Bedeau, je suis pas persuadée de sa faculté à dénoncer.
Pour moi il a pas les épaules, il a pas le recul, et puis va falloir être quand même dans l'écriture, va falloir être vachement fin. En vrai il y a la place à faire des vraies bonnes blagues sur le post-colonialisme et
la période des trucs de la base, mais là tu mets
genre, je sais pas, tu mets Fabrice Eboué, Blanche Gardin en binôme, enfin tu vois, c'est tu sais que ça va être drôle parce que voilà, comme la, enfin voilà, tu sais qu'il y aura du second degré et que ça va être un
truc. Je pense que vous vous trompez, parce que le fait qu'il mette Nicolas de Bedeau, ça veut bien dire qu'il y a jamais eu l'intention de dénoncer quoi que ce soit avec cette franchise. Enfin en tout cas peut-être, enfin en tout cas ce que les gens retiennent maintenant aujourd'hui de ce nom là c'est qu'il est pas là pour remettre en cause quoi que ce soit sur la France, mais au contraire d'inscrire un peu dans la chair française ce qu'est être français. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le prends, mais bon
de toute façon c'est que le choix de Bedeau, c'est pas le choix de la subversion par rapport à ça.
Pour moi, ça va vraiment être l'occasion de faire de l'humour raciste en disant bon, c'est du second degré. Et c'est toujours les mêmes qui sont ciblés. Enfin, c'est vraiment, c'est pour ça que je dis, pour moi, ça me rappelle vraiment les années 2000. Quoi.
Moi, ça me joue.
Tu sais, quand t'étais à la fac et qu'il y avait des gens qui disaient des trucs racistes, t'étais là, genre, ah, mais c'est de l'humour.
Ouais, c'est.
Je vois pas pourquoi tu parles des 2000, mais ouais. Ouais, non, mais moi j'aime bien moi 77, et du coup, bon, bah, je vais le voir, mais je sens que je vais pas être à l'aise.
Non, moi par contre, j'irai pas le voir.
Tu auras quand même un truc relou à faire, grâce, je ne t'oublie pas. Donc c'est KTR qui a gagné, hein, 10 à 9. On peut les applaudir bien fort.
Le point qui est sorti nulle part que tu leur as donné, regarde-toi maintenant.
T'as inventé des règles là, vas-y.
C'est bien comme ça, il y a un vainqueur.
En fait, François est en train de nous annoncer qu'il se fait recruter.
Mercato. Grâce, truc relou. Est-ce que tu préfères te retrouver dans un octogone avec Booba ou dans un ascenseur avec Solange Knowles ?
Oh, bah, ça c'est censé être relou, ça ?
Ouais. Bah, vu ce qui arrive à Jay-Z.
Tu choisis Booba, non ?
Je vais lui parler chinois, il va être content. Non, moi je pense que l'ascenseur, mais après, que moi avec Solange Knowles, pas avec mon mec, pas avec, tu vois.
Pas avec Jay-Z.
Pas avec Jay-Z, pas avec.
Je sais pas si tu te souviens de la vidéo, mais elle a un bon jeu de coup de pied quand même.
Ouais, mais elle a rien à se reprocher.
Ouais, mais si je suis toute seule avec. Ouais.
Oui,
mais. T'as vu ?
Non, je sais pas, Solange, tu peux parler de cheveux et tout. Non,
mais carrément, bah oui, non, mais j'ai pas compris. Ouais. Non, moi je me sens pas du tout visée par quoi que ce soit, je suis innocente jusqu'au bout des ongles. Jamais rien
tu
fait
n'as
de
pas
mal.
Trompé Beyoncé.
Du mal de Beyoncé. Du mal de Beyoncé.
Moi, je préfère me retrouver avec Booba et je vise les jambes parce qu'il est tout maigre des jambes.
Ouais, il a du canne.
Je vise les mains et je le fais tomber.
Ah, eh bien, mec,
c'était la fin. C'était
la fin. Tu vas retrouver dans une story Insta de Booba, tu vas.
Il va venir me chercher. C'est super cool de jouer avec vous. Oh, en tout
c'était
cas.
Un plaisir, merci.
J'espère que ça vous a.
Attention, maître du jeu. Franchement.
Excellent, bravo François.
Eh ben, merci. Merci.
T'as bien
merci.
Fait de venir.
Ben, en tout cas, ouais, encore une fois, merci beaucoup, Grâce et Rocaille, d'avoir fait le jeu avec nous. On est super contents. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ça. Grosse inspiration, franchement, Kif Taras. Moi, j'ai bien aimé l'épisode, avec Marie Da Silva, alias Napili Caio, parce que dès que je l'entends, s'exprimer, elle est vraiment géniale. Et,
La France des Lumières.
au pays de Candia. Kevin, je crois que tu voulais,
Ouais, moi, c'est épisode 18. C'était le mythe du français de souche avec Audrey Célestine qui parle de trucs passionnants, et en même temps je me reconnaissais un petit peu dans ce qu'elle disait, donc c'est je pense vraiment un de mes épisodes tout préférés, donc non, c'était vraiment très
bien. Moi j'adore le chip, j'écoute souvent, et j'adore trash ou iconique ou trash, non on dit trash ou iconique,
trashico même,
ouais, trashico.
Et maintenant il y aura intimes. Du merch
iconique. Ouais, j'adore, parce qu'en fait je pense que vos goûts et vos intérêts sont me permettre de découvrir des choses auxquelles je n'aurais pas naturellement accès pour X ou Y raison. Et du coup, je prends des notes quand je. Et j'ai bien aimé. C'est difficile de dire lequel j'ai aimé, mais dans les épisodes récents, j'ai bien aimé celui où vous avez parlé du film nigérian, là, justement par rapport aux Oscars.
Lionheart, ouais. C'est marrant.
Et du coup, à la lumière des résultats des Oscars 2020, c'est encore plus intéressant parce que ce film a été évincé de. Il n'était pas éligible. Il n'a pas pu être éligible à la catégorie du meilleur film étranger, alors que là, le Best Picture, donc le film meilleur film, a été attribué à un film en langue étrangère totalement. Du coup, c'est bizarre.
Ouais, parce que c'était quand même un film nigérien, quoi. Donc c'était absurde.
Et donc, nulle part dans le règlement des Oscars, il est dit que le Best Picture doit être en anglais, puisque du coup, voilà.
Justement. Best Picture.
Voilà. Et du coup, c'est comme les castings, c'est-à-dire que quand c'est pas marqué que c'est des gens racisés, tu crois que c'est parce que c'est pour les blancs. Et ben le Best Picture, donc ça fait 92 années
que c'est écrit en anglais. Nulle part, ouais.
Alors que c'est écrit nulle part, que il peut pas être en coréen ou en je sais pas quelle langue.
C'est un film muet, donc coup de génie quoi.
Donc voilà.
Bah écoutez, c'est Kif Taras du coup qui a gagné le droit d'être le podcast raciste.
Et moi j'ai le droit de dire
contre les gens. Bien sûr, Okaya. Dis-nous.
Non, moi j'aime bien. Non, je trouve que c'est super frais, c'est hyper dynamique, hyper vivant. J'écoute régulièrement. J'ai bien aimé l'épisode que vous avez fait sur Maîtresse d'un homme marié, sur la série sénégalaise.
Tu regardes du coup?
Ouais, j'ai tout regardé. Non, mais non seulement je regarde, mais j'ai rencontré les actrices au Sénégal.
La vraie fan, c'est vraiment.
Ouais, j'attends la suite là, la saison suivante. Donc,
moi, j'adore les placements de produits.
Ah, mais c'est génial.
Faire la lessive.
C'est ça. Mais tu m'appelles. Mais
pour les mains et en poudre.
Mais moi, j'adore. Ouais, le placement dans l'intrigue. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce thé? Ah, tu connais pas ce thé? C'est le thé des vrais gaillards.
Moi, ce que j'aimais beaucoup dans cette série, c'est l'utilisation du français. Je suis jamais allé au Sénégal. Ouais. Et donc, du coup, la série en Wolof. Ouais. Mais quand il y a certains moments, des trucs de séduction, les trucs comme ça, bam, ça repasse sur le français. Ouais. Je trouve ça très, très intéressant. Ça me fait penser à autre chose et tout.
Et puis, vraiment. Puis d'avoir autant de femmes sénégalaises différentes, je trouvais ça assez chouette, quoi. J'ai bien aimé le live que vous avez fait aussi à la Nèche.
Ah, merci.
C'était vraiment cool. Super sympa.
On avait tellement de pression sur ce truc.
C'était bien.
C'était cool. On a rencontré Assa Traoré et tout.
Trop bien. C'est vrai qu'elle était présente.
Plus ou moins marraine de l'événement, mais en tout cas.
Elle avait un stand, elle était présente.
Tout à fait.
Et moi, mon épisode préféré de Kif Taras, c'est un early. Je l'ai écouté quand on était sur la route aux États-Unis avec mon mec. Et c'était l'épisode 2, la panthère et la gazelle.
C'est l'épisode 3.
C'était vraiment bien.
Sur la fétichisation des femmes racisées, j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
Il y aurait un épisode à faire sur les femmes métisses, spécifiquement. Je pense qu'on peut tenir un épisode entier sur la femme métisse.
Ouais, c'est clair.
Les enfants métis.
Ouais, c'est ça. Non, mais le côté, c'est le remède antiraciste par excellence. Alors que on sait.
On sait. Ouais. Bref, c'était Le Chip et Kif Taras. On refait ça quand vous voulez, comme je vous disais.
Avec plaisir.
Vous pouvez retrouver nos deux podcasts sur Apple Podcasts, Spotify, toutes les bonnes plateformes de podcasts, chez votre marchand de journaux. Si vous tombez sur nous, que vous nous croisez, mettez-nous un nombre d'étoiles supérieur à 4,5, c'est-à-dire
5.
5, tout à fait, c'est la bonne réponse. Un point de plus et c'est l'égalité. Cette émission a été réalisée par Quentin Bresson. À bientôt et des bisous.
Bisous, bisous.
Salut, salut.
Bye bye.
Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.